des formes utiles. L'art et ses récits, une émission proposée par Fabiola Bodoy. La chose semblait comme sans doute absolument certaine.
Nous sommes sur Radio Cause Commune 93.1 FM et vous écoutez Des formes utiles, l'art et ses récits. J'ai le plaisir d'avoir comme invité l'historien de l'art béninois, Didier Huenoude. Bonjour Didier. Après tes études en histoire de l'art et archéologie au Bénin, après un doctorat en histoire de l'art à l'Université de Trèves en Allemagne, à ton retour au pays, tu es chargé de la réhabilitation du patrimoine historique de la ville de Porto Novo. En 2012, tu es commissaire adjoint de la Biennale internationale des arts du Bénin, puis directeur du patrimoine culturel auprès du ministère de la Culture, conseiller technique du ministre, et tu fais partie de l'équipe chargée de la restitution des œuvres d'art pillées par la France lors du sac d'Abomey en 1892. Directeur de l'Institut national des métiers de l'art, puis chef adjoint du département d'histoire et archéologie à l'Université du Bénin, tu as enseigné l'histoire de l'art en tant que professeur invité à l'Institut d'art et sciences de la musique de l'Université technique de Dresde en Allemagne. Tu es présent dans plusieurs ouvrages collectifs sur l'urbanisation, sur le patrimoine de la ville de Porto Novo. Tu interviens régulièrement à l'INA, l'Institut de l'histoire de l'art à Paris. Tu travailles avec le Quai Branly, le Musée Albert Kahn, l'Université de Cergy-Pontoise, l'EPA, l'École du patrimoine africain à Porto Novo au Bénin, et d'autres institutions en Afrique pour ne citer que quelques-unes. J'aimerais qu'on parte ensemble sur les traces de ce parcours qui, s'il est prestigieux, n'a pas toujours été serein. J'aimerais qu'on parle de tes intentions et de leur confrontation à la réalité, qu'on aborde la question du patrimoine, des questions qui se posent et s'imposent à l'artiste contemporain béninois, dont la création fait partie du patrimoine immatériel d'une culture, et aussi d'une histoire de l'art africain à venir écrite par des historiens de l'art non occidentaux. Du fait que s'il s'agisse de la réhabilitation du patrimoine historique de la ville de Porto Novo, de ton travail d'enseignement et de recherche à l'université, de restitution du patrimoine matériel ou de conservation de l'immatériel, à chaque fois surgit la problématique de l'identité. Je commencerai cet entretien par un poème de Barnaba Laye, poète franco-béninois, né à Porto Novo, ta ville, non pas de naissance, mais de vie jusqu'il y a peu. Poète disparu cette année. Il y aurait tant de choses à dire, le bien, le mal, les embûches, les esquives, tour à tour chance ou malchance, destin ou hasard, et au coin de la rue des circonstances qui nous échappent. La route est longue et nous sommes loin du port. Nos visages arborent le passage des intempéries et les cicatrices balafrées du temps qui passe. Dans notre nuit d'errance rôdent les fantômes, nos démons maléfiques et les rêves impénitents. Le temps caméléon change aux multiples nuances du noir. Sur l'eau trouble des mers traversières, le noir revêt le jour. Le noir revêt la nuit. Le chemin, où est le chemin? Didier, tu es né en Côte d'Ivoire d'une mère princesse à Caen et d'un père architecte béninois. Tu as étudié l'histoire de l'art et l'archéologie au Bénin, ton doctorat tu l'as obtenu en Allemagne. Ma première tentation est d'essayer de comprendre avec toi de quelle manière ses racines, cultures et paysages différents ont-ils agi et influé sur la naissance de ce désir d'étudier l'histoire de l'art qui est devenu ton chemin?
Merci Fabiola pour la question. Effectivement, quand on m'interroge sur mes origines, c'est un peu difficile donc, pour moi. Parce que j'ai mis du temps, je dirais, pour pouvoir donc, assimiler donc, les deux cultures qui sont les miennes. Je suis né donc en Côte d'Ivoire, comme tu l'as dit, j'y ai grandi et pendant longtemps donc, j'ai été influencé par cette culture ivoirienne qui est celle de ma mère. Et puis j'ai découvert un peu sur le tas, j'étais déjà adolescent, le pays de mon père, le Bénin, que j'ai appris à aimer. Et je me suis senti longtemps tiraillé donc, entre ces deux cultures-là, de savoir qui est-ce que j'étais, à quelle culture j'appartenais réellement. Et je me rappelle que quand j'étais encore adolescent, J'imaginais qu'il faudrait peut-être demander à l'UNESCO pour des gens comme moi qui sont de culture hybride, un pays où nous pourrions vivre et où nous pourrions se sentir donc chez nous. Donc ça, c'est donc la question de l'identité a été pour moi une question assez, je dirais, assez fondamentale dans mon existence. Je dirais que j'ai passé tout le temps à essayer de chercher quelle a été, quelle est mon identité réelle.
Et l'histoire de l'art?
En histoire de l'art, je dirais également que la question de l'art emprunte un peu à tout, je dirais. Et l'art, il n'y a pas de, il n'y a pas de culture qui ne se soit construite en se mélangeant à d'autres cultures. Donc en absorbant également d'autres cultures ou en pactisant. J'aime bien ce terme, en pactisant avec d'autres cultures. Et donc, je dirais que l'histoire de l'art, pour moi, c'est la façon la plus simple de pouvoir comprendre toutes les cultures. C'est un peu comme, si vous voulez, la cuisine. Hein. La cuisine, on mêle plein de saveurs pour pouvoir créer quelque chose qui nous semble intéressant. Et donc, pour moi, donc, l'histoire de l'art également participe un peu de cela. C'est pour moi une façon de pouvoir donc, comprendre les différentes cultures à travers les différentes productions artistiques. Et je pense que toute production artistique emprunte également à d'autres cultures. Et c'est peut-être ce qui m'a poussé à m'intéresser donc à l'histoire de l'art. Et ce qui est également extrêmement intéressant en histoire de l'art, c'est que c'est une discipline qui touche à beaucoup de choses à la fois. Quand on parle de gastronomie, quand on parle de théâtre, quand on parle de danse, quand on parle de chant, quand on parle de peinture, de sculpture. Donc un peu tout ce qui permet donc à une civilisation d'être vivante. Donc pour moi, c'est tout ça qui rend donc l'histoire de l'art assez intéressante et qui m'a poussé donc vers cette discipline-là.
Et les autres influences, peut-être la lecture, les rencontres, les hasards, comment il se fait ce chemin?
Ben
Ouais.
oui, bien sûr. La lecture est très importante dans mon éducation, de ce que je suis devenu. Mes parents avaient une grosse bibliothèque et je passais mon temps, je me rappelle, à piquer les livres de mon père et à les lire. Et je pense que mes parents pensaient que j'étais un enfant un peu trop studieux
Ils avaient
dans son
raison.
coin, qui n'avait presque pas d'amis. Bah oui, qui avait pour amis que les livres. Et donc j'ai découvert beaucoup de choses à travers les livres et je me rappelle que j'avais des amis qui venaient me demander des conseils, bien qu'ils fussent plus âgés que moi, qui me demandaient des conseils, amoureux parfois. Et c'était drôle parce que je leur donnais des conseils à travers, à l'aune des ouvrages que j'avais lus. Alors que je n'avais moi-même aucune expérience en la matière. Donc oui, les livres ont beaucoup influencé donc ma jeunesse, mais également des rencontres que j'ai fait par la suite, des gens que j'ai rencontrés et qui, ma foi, semblaient avoir les mêmes rêves que moi. Et donc tout ça a permis donc de construire un peu ma personnalité et puis donc mon désir vraiment de vouloir créer mon utopie, je dirais, hein, le rêve d'un monde utopique où tout le monde serait donc influencé par l'art, par la culture. Et le rêve de pouvoir donc penser un monde meilleur, je dirais oui, tout ça, ces rencontres, ces lectures donc m'ont énormément influencé. Et je dirais que je suis un gros romantique, même si cela parfois gêne certains amis qui trouvent que c'est un peu bizarre de dire qu'on est romantique.
Et sa lecture, c'était de la littérature du continent africain, c'était des classiques occidentaux, elle était faite un peu de tout. Tu avais un goût pour certains livres en particulier, pour certains auteurs. Il n'y avait que de la littérature, il y avait aussi de la
Je
philo,
dirais
oui.
que il y avait un peu de tout, hein, je dirais. De la philo, de la littérature. Je dirais que je n'avais pas de goût précis, hein. Je lisais un peu de tout. J'ai lu beaucoup de classiques occidentaux, que ce soit allemand, j'ai lu ces différents classiques, mais j'ai lu également des classiques africains. Et puis également de la bande dessinée, je dirais, oui. Un peu tout ce qui passait donc à portée de main. Et je pense que c'est tout ça qui a vraiment nourri donc mon imaginaire. Un imaginaire qui est fait donc de, voilà, un monde, je dirais, dystopique, un monde utopique, où je vois tout le monde heureux. C'est peut-être une déformation donc de ces lectures-là. Mais je dirais que j'ai, mais je dirais que quand même à un certain âge, j'avais une prédilection pour des lectures avec des fins assez tristes, assez tragiques, assez dramatiques.
C'est ton côté
Juliette, comme
romantique.
Tristan Iseult. Donc j'aimais donc ces fins un peu mélodramatiques. Voilà, c'est ça mon côté romantique, tout à fait.
Männer kaufen Frauen.
Didier, tu as été dépaysé en rentrant à 18 ans d'Abidjan au Bénin. On a l'habitude de parler de l'Afrique comme d'un seul pays, mais comme ici en Europe, sur un même continent, il y a une grande diversité. Et s'il y a des similitudes, une histoire parfois commune, les cultures restent différentes. Tu as perdu une ville que tu aimais, des amis, une manière de vivre.
Effectivement.
Tu as été encore dépaysé en partant étudier à Trèves, en Allemagne, et de nouveau amené à te réadapter en rentrant d'Allemagne au Bénin. Est-ce important de confronter ton regard à l'autre, de le poser ou même de l'opposer, parfois, ou...
Je pense que les autres, on sent le regard des autres sur soi, et cela nous oblige donc à une certaine attitude. Effectivement, lorsque je suis arrivé au Bénin pour la première fois, je pense bien plutôt la deuxième, puisque la première fois que j'étais allé, j'avais 4 ans, donc je n'ai pas de souvenirs. Et donc, je retourne au Bénin donc, après des années, donc je suis adolescent pratiquement. Je découvre un pays qui n'a pas la même façon de. Qui n'a pas la même culture que celle que je venais de quitter. Les Bénins sont beaucoup plus réservés, alors que les Ivoiriens sont beaucoup plus extravertis. Du coup, je me suis senti vraiment à l'aise. Bien que j'étais moi-même très réservé. Il y avait également une façon de fonctionner que je ne retrouvais pas en Côte d'Ivoire. Et puis, il faut dire également, l'alimentation également était différente. Le rapport aux autres était différent. Et tout ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Et il a fallu que je découvre également un pays que je ne connaissais pas, une langue, enfin, ou des langues que je ne maîtrisais pas. Et donc, il a fallu donc m'adapter. Et au moment où je commençais donc à prendre mes marques, à trouver mes marques, je me retrouve à partir en Allemagne pour mes études. Et donc, j'arrive dans un pays qui me dépayse encore beaucoup plus. Et je m'y habitue. Et au moment où je commence également à me sentir chez moi en Allemagne, ben, je suis obligé de repartir donc au Bénin.
Donc, tu aurais pu choisir de rester.
Je pense que j'aurais pu, c'est vrai, j'aurais pu choisir de rester, mais il faut dire que le Bénin me manquait. Et j'avais envie donc d'y retourner pour apporter, comme on le pense, comme tout romantique naïf, je pensais apporter ma pierre à l'édifice donc de la construction du Bénin et de l'Afrique. Donc, c'est le côté rêveur, ça.
Didier, ton grand-père maternel a travaillé pour l'administration française. Tu as un arrière-grand-père allemand dans ta famille. Tu as reçu une éducation dans de bonnes écoles à Abidjan puis au Bénin. Le français est la langue officielle dans les deux pays. Tu comprends un peu, mais tu ne parles ni le fon ni une autre langue du Bénin. Es-tu perçu comme occidental dans ta manière d'être, de faire, de penser?
Je fonctionne comme occidental. Mes voisins, par exemple, à Porto-Novo, où j'habite, mais ils utilisent un terme, ils disent le blanc.
Toi, t'es le blanc.
Dans ma faction de... Voilà, je suis le blanc, donc j'avoue que c'est un terme qui me met très mal à l'aise.
T'es Yovo.
Parce que je... Voilà, je suis Yovo, c'est ça, c'est le terme qu'ils utilisent. Tu fonctionnes comme un Yovo. C'est-à-dire... le fait, quand je sors pour décorer ma maison, pour discuter avec le jardinier, tout ça, ils me disent, mais toi, tu fonctionnes comme les Yovo. Et donc, ça me gêne parce que j'aurais bien aimé qu'on me dise que je suis africain, comme tout le monde. Enfin, comme la plupart de ceux avec qui je vis, que je fonctionne comme eux. Donc, effectivement, c'est parfois, c'est...
Mais ce regard se porte aussi sur...
J'ai l'impression qu'on ne vous considère pas comme les autres.
Mais ce regard, comment dire, se pose aussi sur tes enfants, sur ta famille aussi, ou c'est toi qui es le Yovo? Enfin, le Yovo, c'est le blanc. Mais non, on appelle Yovo le blanc.
Ben, je dirais que ça se porte sur moi surtout, peut-être. Parce que vous savez, les enfants, ils ont une facilité à apprendre très rapidement les langues, à s'intégrer donc à un système. Moi, je dirais qu'à chaque fois que je pensais être arrivé à m'intégrer à un système, J'en suis sorti pour aller ailleurs. Donc, je dirais que je ne suis pas. Mon hybridation n'est pas totale. Je reste toujours donc en cours de construction. Et je n'ai que des parties. Je n'ai que des parties. Donc, je n'ai que des parties d'un tout, mais pas des entièretés de chaque partie. Et c'est ça peut-être qui fait que je suis un peu différent.
Où tu t'es installé avec ta famille en octobre dernier, on t'avait prévenu que te promener la nuit ou dans certains quartiers peut être dangereux pour les étrangers, pour les noirs. Tu as dû choisir d'habiter un quartier résidentiel à l'abri, puis avec les enfants. Comment vis-tu le regard qu'on pose sur toi? Te sens-tu du coup étranger? Est-ce que tu es étranger donc un peu au Bénin, Taïovo et en Allemagne également? Est-ce qu'il y a un tiraillement, une tension que tu sens en permanence, ici et là-bas? Et en fait, tu es chez toi où?
Bonne question. Où est-ce que je suis chez moi? Je me pose également la question. Je la pose assez régulièrement. Effectivement, c'est vrai qu'au Bénin, du fait que je ne parle pas la langue locale, enfin, les langues locales, et que mon accent soit complètement différent de l'accent béninois, donc je suis stigmatisé automatiquement comme étranger. Ici à Dresde, ce n'est pas dans le parler, c'est le regard, c'est déjà dans le regard. C'est-à-dire, quand tu rentres, par exemple, quand tu montes dans le bus, quand tu montes dans le tram, quand tu rentres dans un restaurant, automatiquement, tous les regards se portent sur toi. Donc tu sens le poids de ce regard-là sur toi. Et à l'université parfois, quand tu vas pour faire des cours, quand je vais pour faire des cours, j'ai l'impression parfois que les gens sont là pour voir si je mérite le titre de professeur, le titre que j'ai de professeur, qui veulent écouter pour voir si vraiment cet Africain-là est vraiment professeur. Donc, est-ce qu'il a le savoir qui va avec le titre? Donc, on a l'impression également donc, qu'il y a ce regard qui vous juge en permanence.
Tu es toujours à
Alors, où
l'essai.
est-ce que je me sens chez moi? Donc, voilà, je suis toujours à l'essai. Je ne saurais dire où est-ce que je me sens vraiment chez moi.
Et toi, alors, tes racines et ces rencontres avec des manières de penser et de voir différentes, ton regard, il est comment? Il est plus incertain, il est plus ample sur les questions que tu t'es posées et qui étaient au début en train d'éclore quand tu étudiais? Ou sur celle que tu te poses maintenant.
Ben, mon regard est beaucoup plus simple aujourd'hui. Il est, je dirais, je prends la vie comme elle vient, hein. J'évite donc la complication parce que je me dis, la vie est suffisamment compliquée comme elle l'est. Et je pense que cette position assez ambivalente dans laquelle je me trouve, ou assez délicate, je dirais, m'a rendu extrêmement tolérant à beaucoup de choses. Extrêmement tolérant aux autres cultures.
Tu es plus attentif aux autres cultures?
Envie de ne pas les juger. Donc je pense que cette situation qui est la mienne m'a rendu beaucoup plus humble, moins fermé, moins catégorique donc dans mes propos.
Après ton master en histoire de l'art et archéologie, on t'avait vivement conseillé de continuer tes études au Bénin et obtenir une chaire à l'université. Tu as choisi de faire un doctorat en Allemagne. Une fois le doctorat en poche, tu aurais pu choisir de rester en Allemagne, tu es rentré au Bénin. Est-ce que c'était important d'aller contre ce qu'on peut attendre de toi? Est-ce qu'il y a de ça aussi? Est-ce que c'est important de partir? Comme tu dis, tu es toujours une sorte de hybride. C'est important peut-être de recommencer, de se tromper même.
Je pense que c'est important. Parce que je pense que quand on reste sur place, on finit par se scléroser. Et quand on se sclérose, on finit donc par avoir l'impression de vivre dans ces certitudes, dans des certitudes qui ne sont pas forcément vraies. Et on oublie de s'ouvrir parfois aux autres. On a tendance également donc à devenir intolérant. Je pense que quand on part, à chaque fois que l'on part, c'est que on se remet en cause. On laisse la place au doute. Au doute de se dire qu'on n'a pas la science infuse et qu'on va toujours apprendre chez les autres. Et je pense que cette remise en cause perpétuelle, c'est elle qui fait de nous ce que nous sommes. C'est elle qui détermine vraiment donc la vraie humanité. Le fait de comprendre que on peut apprendre parfois chez les gens qui peuvent nous sembler être des barbares, ou on peut apprendre la difficulté particulière. Je pense que c'est toujours ça. C'est-à-dire, les gens ont tendance à fuir les difficultés, alors que moi j'ai l'impression d'avoir tendance à être attiré par les difficultés et les problèmes. Et donc, je me laisse aller et puis j'essaie de tirer chaque fois des leçons de ces différentes expériences.
Sogopeo, 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 sogopeo.
Un poème de Nouraïni Tidjani Serpo, écrit en 73, un autre poète béninois, dit « Je me ris de la négritude, ce joli cheval que les forains vantent le long des cirques. Je me tords devant l'hélénité de la pensée et la négritude de la sensation. Ma peau refuse l'écorchure de ses plaisanteries au goût de confiserie poivrée. Je me ris de la négritude engendrant la réaction du noir contre le noir et je me proclame bleu, rouge, orange, jaune, dans la courbure de l'arc-en-ciel, et je m'installe dans l'âpreté de ma condition d'homme pour mieux cracher sur la poésie noire, blanche, jaune, et partout où l'homme est bafoué dans les rizières vietnamiennes, au seuil du canal de Suez, sur le littoral du Bénin. J'écris dans les contorsions et mes contorsions sont sémites, jaunes, noires. C'est Janos. Ma conscience explose chaque matin dans les graffitis ondulatoires du journal parlé. Il y a eu la négritude de Césaire d'Amasé-Senghor, puis la tigritude de Wole-Soyinka. Le philosophe Achille Mbembe écrivait dans Le Monde en 2019, je cite, « Au regard des pensées africaines antiques, il n'y avait d'identité qu'éclatée, dispersée et en miettes. Du reste, l'important n'était pas le soi en tant que tel, mais la façon dont on le composait et recomposait, chaque fois en relation à d'autres entités vivantes. » En d'autres termes, il n'y avait d'identité que dans le devenir, dans le tissu de relations dont chacun était la somme vivante. L'identité dans ce sens n'était pas une infinie substance. Elle était ce que l'on confiait à la garde des autres, dans l'expérience de la rencontre et de la relation, laquelle supposait toujours le tâtonnement, le mouvement, et surtout l'inattendu, la surprise qu'il fallait apprendre à accueillir. Car dans l'inattendu et la surprise gisait l'événement. Et il dit plus loin, l'important n'était donc pas l'identité, mais l'énergie qui était supposée régir les phénomènes vitaux et animer les conduites. La personne humaine, par excellence, se définissait par sa richesse en énergie vitale et sa capacité d'être en résonance avec les multiples espèces vivantes qui peuplaient l'univers, les plantes, les animaux et les minéraux y compris. Ni fixe, ni immuable, elle se caractérisait par sa plasticité. On reconnaissait les personnes véritablement singulières à leur capacité à réaliser toutes sortes d'agencements de forces, à capter et à reconfigurer les flux de vie. Dans ce sens, on peut dire des métaphysiques africaines antiques qu'elles privilégiaient des dynamiques transidentitaires. Elles étaient des métaphysiques du devenir et non de la substance. À l'heure où les technologies computationnelles achèvent de se saisir du tout du monde, elles nous permettent, mieux que la philosophie occidentale du sujet, de penser l'identité comme quelque chose de toujours en mouvement, jamais le même, toujours ouvert sur ce qui vient et qui ne cesse de se synthétiser de nouveau à la rencontre avec d'autres flux d'énergie. Ta thèse, Didier, a comme titre « Paradigme de l'identité dans la création contemporaine », le cas des quatre artistes contemporains dans l'Afrique occidentale. Cette problématique clé qui est la tienne, la problématique identitaire, prend-elle en partie sa racine dans ce regard qu'on a posé sur toi? Et aussi, comment s'est construite la tienne d'identité dans un autre pays, en contexte postcolonial, puis un autre pays, en Europe cette fois-ci? Penses-tu avec Achille Mbembe que l'identité est en mouvement?
Oui, je pense que l'identité n'est jamais finie, elle n'est jamais finie d'être construite. Je pense qu'elle est, elle est toujours en construction et elle fait partie, elle est composée de nos différentes appartenances, je dirais. Et je voudrais vous ramener à un ouvrage que j'ai bien aimé de Amin Malouf, Les identités meurtrières, qui montre que lorsqu'une identité, donc, lorsqu'elle se fige, lorsqu'elle devient une identité absolue, je dirais une entité qui ne pense qu'à elle-même, qui ne réfléchit que sur elle-même. Elle finit donc par devenir dangereuse et meurtrière, une identité donc exclusive en ce sens-là. Et je pense que l'identité est une, c'est quelque chose qui se construit au fil du temps. Et dans un monde globalisé tel que celui que nous vivons aujourd'hui, je dirais que donc nous partageons des appartenances identitaires qui sont plus ou moins donc les mêmes. Et nous partageons également d'autres appartenances identitaires qui viennent donc d'ailleurs. Ce à quoi chacun de nous, pour chacun de nous, une identité qui est particulière, qui n'est pas forcément la même que celle de l'autre. Et je pense que justement, l'avenir de l'humanité dans cette identité mouvante et mutante, et qui continue donc chaque fois de changer et de s'adapter à la fois au monde, mais également aux différentes mutations de la société. Donc je suis tout à fait d'accord avec Achille Mbembe que l'identité n'est jamais finie d'être construite.
Tu pourrais nous dire à propos de ta thèse quelques mots sur le travail de un des quatre artistes que tu as choisi d'étudier, l'Ivoirien Frédéric Brully-Broabrin, qui était non seulement un artiste, mais un poète, un penseur, un érudit. Et pourquoi tu l'as choisi?
Oui. Ce que j'ai beaucoup aimé chez Brully-Broabré, c'est que il ne s'est jamais vraiment considéré comme un artiste. Il s'est pensé comme prophète. Il s'est pensé comme prophète, comme également écrivain, puisqu'il avait fondé une église à partir d'une prophétie qu'il avait eue lorsqu'il était à Dakar. Et puis quand je l'ai rencontré à Abidjan, il m'a dit une chose que j'ai gardée. Il m'a dit que j'ai voulu être considéré comme Victor Hugo, mais on a fait de moi un Delacroix. Et donc, dans cette façon qu'il avait de se penser lui-même, Brully-Broabré ne se voyait pas être un plasticien. Il a été transformé en plasticien par, je dirais, par les instances de légitimation donc des artistes. Mais sinon, lui, il a toujours pensé qu'il était un prophète et un écrivain, un poète. C'était un peu donc la vision qu'il avait de lui-même. Moi, j'aimais beaucoup ce vieux bonhomme qui avait beaucoup de choses à dire, qui avait beaucoup de choses à enseigner. Et malheureusement, son travail artistique a un peu mis de côté donc le côté je dirais le côté écrivain, le côté prophète du personnage qui a été relégué donc dans l'ombre au profit de la dimension artistique. Et ça, je pense que c'est dû aux instances de légitimation, comme je l'ai dit auparavant.
Après ton doctorat, une fois de retour à Porto-Novo, tu es chargé de la réhabilitation du patrimoine historique de cette magnifique ville afro-brésilienne en bord d'une lagune qu'on dînait des larmes d'une princesse. Il y a le patrimoine culturel matériel et il y a celui immatériel. Est-ce que, aux yeux de la population, il y en a un qui l'emporte sur l'autre? Est-ce qu'il y a un qui fait plus de sens aux yeux de la population?
Mais je dirais que oui, il y a le patrimoine immatériel qui fait plus de sens pour la population. Parce que lorsque moi j'ai commencé à travailler sur le patrimoine à Porto Novo, je me suis intéressé au patrimoine matériel, donc l'architecture. Je dirais que j'ai été beaucoup influencé par mes études, par cette partie, je dirais cette partie occidentale. Qui fait partie de moi et qui a tendance donc à apprécier les choses à l'aune de leur matérialité. Et je me suis rendu très vite compte, en discutant avec la population, qu'elle était plutôt intéressée par la charge immatérielle qui émanait de ce bâti-là. Et je commençais à m'y intéresser, je me suis rendu compte qu'effectivement, la charge immatérielle était beaucoup plus importante et elle permettait même de pouvoir sauvegarder le bâti. coup, j'ai commencé donc à orienter mes travaux sur cette charge immatérielle-là, tout en n'occultant pas, bien sûr, le patrimoine matériel.
Tu es né après les indépendances, mais la colonisation dans ton pays, comme ailleurs, a fait son œuvre. Les traces sont présentes et surtout, il me semble qu'elle se poursuit sous une forme différente, peut-être plus sournoise, car moins visible ou plus difficilement lisible. Comment agit-elle sur les esprits? Et peut-être en se focalisant sur l'art, sinon ce serait trop vaste. Qu'est-ce qu'un artiste béninois contemporain? Comment est-il né? D'où vient-il? Et comment fait-il face à l'héritage colonial?
Alors, l'artiste contemporain béninois, qui est-il? D'où est-ce qu'il vient? Je dirais que l'artiste contemporain béninois est héritier des artistes de cour, des anciens royaumes, hein, notamment celui du Dahomey. Et l'artiste contemporain se construit, je pense, un peu donc après la destruction des sociétés précoloniales avec la colonisation. Puisque avant, les commanditaires des œuvres des artistes, c'était les rois, c'était les dignitaires. Et lorsque tout le système s'effondre avec la colonisation, les artistes ont d'autres commanditaires, parfois les religieux, qui commandent des œuvres pour se réapproprier les statuettes rituelles, les différents éléments rituels. Et parfois, ils n'en ont pas, ils n'ont pas donc de commanditaire. Donc l'artiste tombe un peu dans l'oubli. Et c'est progressivement que l'artiste commence à revenir sur le devant de la scène. L'artiste béninois réclame donc cette filiation à un art de cour qui était extrêmement donc prisé, extrêmement donc respecté. Aujourd'hui, l'artiste contemporain béninois, il est à la fois autodidacte, mais également c'est un artiste qui a fréquenté des écoles, pour certains. Et
Et la
donc il s'empare
colonisation?
donc des différents éléments de la tradition. Mais la colonisation, effectivement, a aussi construit l'artiste contemporain, puisqu'elle a intégré donc dans la façon de fonctionner de l'artiste des outils nouveaux, par exemple la peinture sur chevalet, sur tableau, hein, sur chevalet, qui n'était pas tout à fait le cas. Et également, donc, elle a orienté aussi donc l'artiste vers certaines productions qui étaient destinées donc à un public. Alors qu'auparavant, les productions n'étaient pas forcément donc destinées à un public d'amateurs. Elles étaient souvent fonctionnelles à l'époque. Aujourd'hui, donc, l'artiste contemporain béninois se nourrit un peu de toutes ces différentes, toutes ces influences, je dirais, qui ont construit ce qu'il fait aujourd'hui.
Gagne foton boni folé boto ilopo anajo do to we na gbogbe ya wewe mi lewe iule no yi wiwe do no pon hun yo yen mara gboro beto no isusu do anu ya torun gai ohun gan ya worin boyi geze gbogbo ajaja gbo ayen do mo tokan e anamwede aha aloyon do garun do e ajero
Bye.
jagbe otonu ngai ogo ajajagbe aloyun to garun ro e ajero
Oh,
fuego. Ayoro wedo
agore
do sempre pado de tone do pon ma hu je mu kwa ko mai bo ae ayoro wedo
agore do
kuna mo te to de do pon ma hu je mu kwa ko mai bo ae yoro wedo.
Tu es le nouveau président de l'Association internationale des critiques d'art du Bénin, une structure en veille que tu es en train d'activer. Quel est le travail à faire? Pourquoi la réactivation de cette structure?
Cette structure a été créée il y a fort longtemps et à un moment donné, elle n'a pas pu fonctionner comme il le fallait parce qu'il y avait beaucoup à faire au niveau de la structuration du milieu de l'art contemporain au Bénin.
Elle était affiliée à l'AICA? L'AICA, c'est l'Association internationale des critiques d'art, pour préciser.
Elle était affiliée à l'AICA. Elle était affiliée. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir lui redonner un peu plus de visibilité et surtout prendre part à la construction de ce nouvel environnement artistique qui se met en place au Bénin et qui fait que le Bénin devient une plateforme extrêmement importante en matière d'art contemporain.
Il y a des critiques d'art au Bénin qui doivent être formées.
Il faut former des critiques d'art. Il faut former des critiques d'art parce que de plus en plus donc, d'artistes naissent. Vous savez, auparavant, au Bénin, il n'y avait pas d'école de formation. La première école a vu le jour il y a quelques années. La première école au niveau universitaire, je veux dire. Et j'ai dirigé également cette école-là pendant 5 ans. Et donc, il y a les artistes qui sont formés dans divers domaines, donc des métiers artistiques. Et pour que ces artistes également puissent pouvoir s'exprimer et puissent se faire connaître sur le marché international, il est absolument indispensable donc, qu'il existe d'autres acteurs de la chaîne artistique. Par exemple, les critiques d'art sont absolument indispensables. Il faut donc en former. Il faut former des journalistes culturels et il faut former des agents d'artistes. Et donc, je pense que tout cela reste encore à faire au Bénin parce que la chaîne est en train de se mettre en place, un marché est en train de se créer et la scène artistique béninoise elle-même devient extrêmement dynamique. Et donc, il faut contribuer à ce que tout cela donc, puisse permettre une émergence d'un art contemporain qui soit au visage même du Bénin, mais qui puisse également être la vitrine du Bénin à l'extérieur.
Didier, ce premier entretien touche à sa fin. Peut-être peux-tu lire le poème écrit par Nouraini Tidjani Serpos. Après ce que tu dis, ça va faire un peu... Mais je l'aime bien.
Évidemment, je vais le lire. Il s'intitule « Au musée de l'homme ». L'art au musée de l'homme, le balayeur des rues devant le musée. C'est un homme et c'était son art. L'homme à la porte du musée. Il se fout de l'art. Il a faim le mec. Il a froid le gars. Son balai smicarde, rythmant son cauchemar. Mon pote, il n'a rien dit l'homme. Que tenir son balai. Sortez son art du muséum. Le musée de l'homme abstrait. Le musée de l'homme ethnologique. Pour que vive l'homme concret, celui de tous les jours.
Merci Didier.
C'est moi.
Don't